Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver notre historien géographe Jean Saraméa. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, novembre, décembre, janvier et souvent février, comment peuvent faire les animaux poils ou à plumes à haute altitude pour passer l'hiver sans trop risquer leur vie? Alors, il y a trois ou quatre adaptations possibles. La première adaptation, c'est s'en aller. On ne va pas s'étendre. Beaucoup d'oiseaux, que l'on appelle les oiseaux migrateurs, viennent en mai-juin, repartent quelquefois fin août. Je pense au martinet qui repart fin août, les hirondelles 15 jours plus tard, et beaucoup de passereaux s'en vont vers le midi, quelquefois beaucoup plus loin, en traversant la Méditerranée. Ils suivent tout simplement la nourriture disponible. Ce serait suicidaire de rester dans des climats ou des altitudes où il n'y a plus rien. Deuxième adaptation, c'est de descendre en altitude pour quitter les zones de rochers ou d'alpages qui sont beaucoup plus ventées, qui sont beaucoup plus froides, qui sont beaucoup plus difficiles à vivre. Alors bien sûr, les chamois, les bouquetins peuvent gratter la neige pour trouver
Des lichens.
un herbage, des lichens ou un herbage plus ou moins séché à l'automne. Ils le font, mais en général, ils descendent de plusieurs centaines de mètres d'altitude, tout simplement pour survivre. Ce qui les rend évidemment plus faciles à chasser, puisque c'est la saison de la chasse. Troisième adaptation, diminuer la dépense énergétique. C'est une question de survie. Et je vois chaque hiver, et c'est une très bonne initiative, le personnel du Parc national des Écrins met des panneaux, je pense près du col du Lautaret, des panneaux qui expliquent très clairement, avec photo à l'appui, de ne pas lâcher les chiens de promenade et de ne pas courir après les chamois parce qu'ils ont peu de nourriture en hiver et leur dépense énergétique rend leur survie vraiment aléatoire et problématique. Donc si on les oblige à courir, surtout dans une neige plus ou moins épaisse, ils vont dépenser leurs maigres ressources énergétiques et ils vont mourir tout simplement de froid et par manque d'énergie qui provient évidemment de la nourriture. Les réserves de graisse accumulées pendant l'été, ça s'amenuisent au cours de l'hiver. Et terminons en signalant quelque chose de très original qui a été compris récemment, tout au moins étudié récemment, ce qu'on appelle l'homochromie, c'est-à-dire le fait de changer de plumage ou de pelage entre l'été et l'hiver. Alors, chez nous, ce sont trois espèces. C'est la grosse perdrix, qu'on appelle le lagopède, Lagopus mutus, qui en été a un plumage gris, un peu blanc, mais surtout gris, qui se confond bien avec les herbes, disons. Et tout le problème, c'est de limiter l'exposition aux prédateurs, surtout aux prédateurs volants, c'est-à-dire aux rapaces. Et à partir de fin octobre, début novembre, le lagopède est blanc immaculé. Donc tout le plumage a changé, courant octobre pour l'essentiel. Il ne reste plus que le bec et l'œil, et les yeux, qui sont de couleur foncée. La deuxième espèce, c'est l'hermine, Mustela herminea, qui est de couleur fauve en été. C'est un redoutable petit chasseur hein, qui court très vite, qui a des yeux perçants et qui peut s'attaquer. C'est un carnivore. Et l'hermine devient, on a l'habitude de dire un pelage d'hermine, c'est-à-dire blanc immaculé, en hiver. Là aussi, sur la neige, elle est beaucoup moins vulnérable. Il est possible aussi que le pelage soit un petit peu plus épais. C'est le cas pour certains plumages et certains pelages. Et la troisième espèce, c'est le lièvre variable, Lepus timidus, qui est couleur normale d'un lièvre en été, c'est-à-dire brun-roux, et qui devient d'une blancheur immaculée, blanc comme neige, peut-on dire, en hiver, où là aussi, ce n'est pas une espèce qui hiberne. C'est une espèce qui cherche un peu d'herbe, c'est un herbivore, donc qui trouve là où la neige n'est pas très épaisse, l'herbe qui est sous le manteau neigeux, même si elle a un peu séché ou si elle est largement humide. Voilà, alors cette homochromie, on s'est dit, bon, c'est la neige qui provoque le changement de couleur. Eh ben non, parce que ça se passe un mois avant la neige. On s'est dit, c'est le froid, c'est l'arrivée du froid, c'est l'arrivée des fortes gelées nocturnes à partir de 2000-2500 mètres qui provoque le phénomène. Non, parce que même si l'automne est très doux jusque fin octobre, début novembre, il y a la mue du pelage ou du plumage qui ne souffre aucun changement de calendrier. Donc, comme pour les arbres, comme pour d'autres espèces, c'est ce qu'on appelle le photopériodisme, c'est-à-dire que l'organisme, c'est pas volontaire de la part de ces espèces, hein, mais leur organisme enregistre la baisse de l'ensoleillement, la baisse de la chaleur du soleil et surtout l'allongement des nuits. Et disons qu'aux alentours de l'équinoxe, donc vers le 20 septembre et puis en sens inverse vers le 20 mars, ça déclenche un phénomène hormonal dans ces espèces, à l'intérieur des corps, ça déclenche un phénomène hormonal qui modifie donc tout l'aspect extérieur de la bête. C'est stupéfiant et c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, alors décrivons un petit peu le mois de novembre par un acrostiche. Novembre, dernier feu des feuillages fantasques, où le vent hurle et joue en brutale bourrasque. Voici le jour éteint et les ombreuses nuits, embrassant l'horizon d'où les couleurs s'enfuient, miroitant au matin sur l'herbage encore vert, brille givre ou rosée en gemme de l'hiver. Ravissante soirée où s'allonge le temps, égrenant les flocons des souvenirs d'antan.
Ouais, merci beaucoup, Jean.